L'émission de l'Olivret de cette semaine a été enregistrée en février. Or, le 10 mars, Paul Balmel, un de mes deux invités de l'Olivret de cette semaine, est décédé. Je vous propose néanmoins de bénéficier de cette excellente émission que nous avons faite à trois, donc moi-même, Hélène Sauvignon, Père André Chaput et Paul Balmel, sur le sujet des chemins de Saint-Gilles, cette association qui a été fondée par Paul Balmel. Cette semaine, dans l'Olivret, nous nous intéressons au chemin de Régordane, particulièrement sous l'aspect du pèlerinage, le pèlerinage à Saint-Gilles. Saint-Gilles étant une ville à l'époque importante au niveau commercial, importante aussi au niveau stratégique, c'était le port le plus méridional de la France. Et on ne pouvait pas prendre comme voie de communication entre le nord et le sud de tout de suite le Rhône, parce que de l'autre côté, ce n'était pas la France. Alors, on en parle cette semaine avec Paul Balmel et le père André Chaput. Père Chaput, on a bien compris que Saint-Gilles, c'est un personnage qui a vécu avant le Xe siècle. Son tombeau, il a été enterré à Saint-Gilles. Saint-Gilles était déjà un port. Là-dessus, il s'est construit un monastère. Cette ville est devenue importante. Et puis, petit à petit, il y a eu des gens qui ont obtenu des miracles. Et c'était un très grand saint. Vous avez même pris le terme auxiliateur, c'est ça?
C'est ça, oui.
On m'a parlé de Robert le Pieux, qui était venu à Saint-Gilles dans une démarche de pèlerinage. On nous a parlé aussi du roi Saint-Louis, qui est venu pour aller en croisade, repérer s'il pouvait partir de Saint-Gilles. Est-ce que ça a été le début d'une période faste, ça, pour la ville de Saint-Gilles?
Alors, on peut penser que, oui, cette période faste, comme on atteste la visite d'un roi, c'est qu'il y avait du monde. Le roi n'allait pas là où il n'y avait personne. Hein. C'était la grande époque du commerce, c'était la grande époque des croisades. Hein. D'ailleurs, ce qui est étonnant, dans le portail de la basilique de Saint-Gilles, il y a des sculptures, vous le savez sans doute, et il y a, entre autres, des dromadaires qui sont sculptés. Ça veut dire que les gens qui sont passés là... Il n'y avait pas de dromadaire à Saint-Gilles, mais ils en avaient vu en Orient. Hein. Vous voyez, ça atteste de ce commerce. On a un document aussi qui dit qu'il y avait 130 échoppes de changeurs à Saint-Gilles à cette époque-là. Donc ça montre bien l'importance du commerce dans cette ville-là, et puis l'importance religieuse aussi, parce que la basilique à la grande époque, elle faisait plus de 100 mètres de long. C'était la plus grande église du Midi, si elle était encore... entière, ce serait tout à fait impressionnant. Hein. Voilà. Donc, l'importance économique et religieuse de Saint-Gilles, oui, à l'époque du XIe au XIIIe, XIVe siècle, hein, on peut penser.
Oui, parce qu'il y a eu, après, il n'y a pas que Louis IX, enfin Saint-Louis, Philippe III, par exemple, est venu en pèlerinage lui aussi. Son fils, Philippe le Bel, est venu aussi à Saint-Gilles, en fait, c'était un petit peu intéressé, c'était pour peser, si on peut dire, mesurer la toute-puissance des comtes de Toulouse, qui étaient comtes de Saint-Gilles, et qui dominaient tout le Languedoc, même plus loin, puisqu'on trouvait des chapelles consacrées à Saint-Gilles avec l'appui des comtes de Toulouse. On en trouvait dans les Alpes de Haute-Provence, par exemple. On a eu l'occasion de faire des pèlerinages du côté de Gap ou dans ces coins-là, ou Digne, il y a pas mal d'églises ou de chapelles consacrées à Saint-Gilles. Donc ça veut dire que c'était un lieu de passage déjà, les pèlerins, les Romieux, c'est-à-dire ceux qui venaient de Rome, passaient par le Mont-Genèvre et descendaient la vallée de la Durance, passaient après par Apt, Cavaillon, et regagnaient Saint-Gilles. Là aussi, il y avait une puissance disons, il y avait le pèlerinage et il y avait quand même les comtes de Saint-Gilles qui mettaient un petit peu leur regard là-dessus, au point de vue commerce, au point de vue... Ils étaient très puissants, plus puissants que les rois de France à l'époque. D'où à ce moment-là, le grand schisme qui s'est produit, soi-disant les cathares, les albigeois, n'étaient pas dans la ligne dogmatique. Et donc, Philippe le Bel a profité de l'occasion pour entamer une guerre contre les comtes de Toulouse, qui étaient soupçonnés de soutenir modérément, mais enfin soutenir quand même les cathares. Voilà. Et ça a été le début de la perte de Saint-Gilles, la dégringolade de Saint-Gilles.
Donc Saint-Gilles a dégringolé.
À partir du 12e, 13e siècle.
13e siècle. Oui,
voilà. Parce que politiquement, ça devenait plus incertain. Il y avait
Voilà. C'est-à-dire que l'événement, évidemment, qui est important, c'est cette guerre contre le comte de Toulouse. C'était une guerre politique. Hein. C'est que le roi de France voulait ouvrir son territoire sur la Méditerranée et conquérir toutes les terres du comte de Toulouse. Donc il a pris comme prétexte que le comte de Toulouse, ce qui était vrai d'ailleurs, soutenait l'hérésie modérément, mais enfin la soutenait quand même. Il a envoyé des légats pour un peu convertir, et le légat du pape, qui s'appelait Pierre de Castelnau, a été assassiné à Saint-Gilles. En 1209, je ne sais plus le jour, mais enfin 1209, donc... Il y a d'ailleurs son tombeau, oui, Pierre de Castelnau, il est bien heureux dans la tradition, saint pour d'autres, mais on a sa fête dans le diocèse de Nîmes, de toute façon. Et le pape a exigé que le comte de Toulouse fasse amende honorable de cet assassinat. On n'a jamais pu prouver qui, c'était pas lui directement, mais c'était quelques-uns de ses soldats qui l'ont oxy au bord du Rhône, hein, dans la plaine de Saint-Gilles. Et le pape Innocent III, je crois, a exigé une soumission du comte de Toulouse. Et ça a été le début de la croisade contre, que l'on dit, contre les Albigeois.
Alors là, concrètement, les gens, ça devenait moins intéressant de venir jusqu'à Saint-Gilles.
C'était un peu plus dangereux. Ça a continué quand même, ça a continué, mais ça a évolué et la ville a perdu de son importance. Il y a eu les croisades, on est allé beaucoup plus loin, retrouver le tombeau du Christ. Hein. Pour les pèlerins, vraiment, c'était plus intéressant d'aller retrouver le tombeau du Christ que d'aller uniquement voir un saint.
Alors ce que je ne comprends pas bien, c'est parce que pas loin de Saint-Gilles, après, il y a eu Beaucaire.
Oui, qui était
un port très important, aussi une plaque tournante.
C'était une plateforme,
un centre commercial.
Mais c'est plus tard. La foire de Beaucaire, c'est 17e,
18e. Oui, c'est beaucoup plus tard.
D'accord.
C'est plus tard.
Et entre le déclin de la foire, parce qu'est-ce qu'il y avait une foire à Saint-Gilles ou non?
Ah oui.
Toute l'année, il y avait beaucoup de commerce.
Tout le commerce du midi de la France se faisait par Saint-Gilles.
Quand il y a eu le déclin de Saint-Gilles, qu'est-ce qui a fleuri à ce moment-là? Si Beaucaire, ça a pris quelques siècles.
Oui, c'est peut-être Beaucaire qui a commencé. Mais Beaucaire a été pris par la guerre, enfin par la croisade contre les Albigeois, et ça a été détruit, Beaucaire, hein, en 1314 ou je ne sais pas combien, oui.
C'est donc, Simon de Montfort
oui.
qui représentait soi-disant le roi de France et en fait était apparemment un guerrier assez ardent. Il cherchait surtout à guerroyer et c'est lui qui a repris le château de Beaucaire qui appartenait aussi au comte de Toulouse, évidemment. Voilà, et ça a été à ce moment-là le début d'une période, un déclin de toute la région. Parce que après, il y a eu tous les
troubles religieux du XVIe siècle, XVIe siècle, avec les protestants, enfin la réforme, disons.
Oui.
Mais alors, chemin qui part du Puy-en-Velay et qui vient à Saint-Gilles, on comprend bien que le sud devenant plus troublé, on y vient un peu moins. Oui. Ou sinon, mais il y a eu aussi l'histoire qu'on pouvait ensuite prendre le Rhône.
Voilà, oui, c'est ça. Vous savez, dans le cours des siècles, ça évolue. Hein, les habitudes, les manières de faire, et puis les commodités. C'est sûr que à partir du moment où on a inventé les attelages, parce que le chemin de Rigordane, c'était un chemin à dos de mulet, la descente en dessus Villefort, le col Bayard, c'est un sentier qui est étroit, c'est à dos de mulet. À partir du moment où on a inventé l'attelage, il a fallu faire des chemins beaucoup plus plat et moins pentu, etc. Alors on a modifié un peu le chemin de Rigordane, mais pas complètement. Puis ça, à partir du moment aussi où le territoire national français s'est agrandi, que le Valentinois, la Drôme, tout ça sont devenus français, on a pu descendre dans la vallée du Rhône.
Et plus plate. Paul Balmel et André Chaput, on se retrouve demain pour continuer de parler de ce chemin de Rigordane et aussi des chemins de Saint-Gilles. À demain.